Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par France Lyme sur l'antenne de RCF 61. Aujourd'hui, nous allons parler des tests biologiques utilisés pour le diagnostic de Lyme. Le manque de fiabilité des tests actuels est l'objet d'une violente polémique, tant il est vrai que les données scientifiques disponibles sur ces fameux tests sont occultées systématiquement par une partie du corps médical, alors même que des données chiffrées éloquentes figurent dans le protocole de consensus de 2006. La non-fiabilité des tests était au cœur du procès de la biologiste Viviane Schaller, dont la lourde condamnation au mois de novembre dernier a surpris et indigné les associations de malades. La non-fiabilité des tests figure également comme un sujet de forte préoccupation dans la proposition de loi 2291 déposée le 14 octobre 2014 par un groupe de députés de l'UMP, actuellement 116 signataires pour cette proposition de loi, mais aussi dans un grand nombre de questions orales et écrites posées à la ministre de la Santé par des députés. En 2014, 26 questions écrites mentionnent le problème des tests Lyme, plus de 2 par mois. Et également, on trouve des questions écrites posées par les sénateurs, et ceci que ce soit des gens de gauche ou de droite, de tous bords politiques. Donc les gens qui pensent être touchés par la maladie de Lyme sont confrontés à l'incertitude générée par l'absence de tests fiables. Et c'est pourquoi nous faisons le point ce mois-ci sur les différentes façons dont on peut confirmer un diagnostic de Lyme par la biologie. Et pour répondre à ces questions, notre invité est le docteur Lionel Chapy, biologiste médical spécialisé dans le diagnostic de la maladie de Lyme et de ses co-infections. Monsieur Chapy, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer tout de suite par quel est le test le plus simple qu'on puisse faire pour savoir si quelqu'un a la maladie de Lyme?
Oui, mais avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une petite précision. Il faut bien différencier la maladie de Lyme aiguë de la maladie de Lyme chronique. En effet, la maladie de Lyme aiguë est caractérisée par une morsure de tic, suivie en général d'apparition d'un érythème migrant. Cet érythème migrant est spécifique de la maladie de Lyme aiguë et il n'y a pas besoin d'examen biologique. Et si on demandait un examen biologique à ce moment-là, il y a de fortes chances que le résultat soit négatif, car l'organisme n'aurait pas eu le temps de fabriquer des anticorps. Tout ce dont nous avons parlé concerne la maladie de Lyme chronique, ou Lyme secondaire, ou tertiaire, ou syndrome post-Lyme. Dans ce cadre, la clinique n'est pas évidente, car les symptômes évoquent souvent d'autres pathologies, et le recours à la biologie peut être une aide non négligeable. Mais il faut malheureusement admettre qu'au jour d'aujourd'hui, les examens biologiques actuels ne permettent pas d'affirmer si un patient est atteint ou non d'une maladie de Lyme chronique active. Bref, pour revenir à votre question, le test qui peut paraître le plus simple à réaliser, mais qui n'est pas un test diagnostique, est peut-être l'examen direct d'une goutte de sang sous microscope à fond noir. Cela consiste à recueillir une goutte de sang chez le patient, par exemple au bout du doigt, sur une lame, de recouvrir la goutte par une lamelle, de fixer la lamelle et de regarder sous un microscope à fond noir. On cherche alors si on voit des éléments mobiles en forme de spiroquettes, des petites sphères ou kystes immobiles ou des structures perlées. Si on en aperçoit, on ne peut en aucune façon conclure la présence de Borrelia, mais simplement indiquer qu'il existe des éléments en forme de spiroquettes. Donc je le répète, ce n'est pas un test diagnostique. D'ailleurs, une publication parue l'an dernier indique qu'il faut créer des conditions d'hypoxie et attendre au minimum plusieurs heures avant de regarder sous le microscope.
Et est-ce que ce test est pratiqué en France?
Alors, en principe, tout laboratoire d'analyse médicale serait susceptible d'avoir un microscope à fond noir. Le problème relève plus de la compétence et de la disponibilité, car il faut être patient et l'observation peut durer longtemps. Alors normalement, je sais qu'une étude devrait être faite au cours de l'année 2015 sur ce test afin de mieux appréhender les éléments que l'on voit au microscope.
D'accord. Et donc, quelles sont les autres analyses qu'on peut faire sur une prise de sang?
Alors, nous pouvons faire des tests indirects, c'est-à-dire étudier les réponses de notre système immunitaire vis-à-vis de la bactérie. De façon schématique, il faut savoir que notre système immunitaire lutte contre la bactérie par l'intermédiaire de nos lymphocytes. Or, il existe 3 sortes de lymphocytes. Les lymphocytes B, qui représentent ce qu'on appelle l'immunité humorale, qui vont entraîner l'apparition d'anticorps, ils vont être les témoins d'une mémoire immunologique. Puis, il y a les lymphocytes naturels killer ou NK, qui sont en général non spécifiques de la bactérie, car ils attaquent toute cellule étrangère à l'organisme. Et enfin, il existe les lymphocytes T, qui représentent ce que l'on appelle l'immunité à médiation cellulaire et dont certains sont spécifiques de la Borrelia.
Donc en fait, ces différentes composantes du système immunitaire sont affectées par la présence d'une borréliose de Lyme chez la personne. Et donc, on va commencer par les tests qui sont actuellement utilisés selon les recommandations officielles et qu'on appelle donc le test ELISA et le test Western Blot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Je vais essayer. Les tests ELISA et Western Blot explorent l'immunité humorale, c'est-à-dire que nous allons rechercher la présence d'éventuels anticorps fabriqués par l'organisme si celui-ci est en contact avec la bactérie. Ces anticorps sont de deux types. Les premiers à apparaître sont de type IgM et sont censés représenter un contact récent avec la bactérie. Puis apparaissent des anticorps de type IgG qui sont censés représenter un contact ancien avec la bactérie. Alors, je dis censé, car si cela est vrai dans la plupart des infections, on constate que parfois certains patients infectés par Borrelia conservent des IgM pendant de nombreuses années sans apparition d'IgG. Ou alors nous avons des patients qui sont positifs en IgM et en IgG, et nous n'avons pas d'explication particulière à ces phénomènes.
Oui, je vais revenir un petit peu là-dessus, parce que ce n'est pas forcément très évident pour tout le monde. Vous voulez dire que normalement, lors d'une réaction immunitaire dirigée contre un organisme quelconque, on a donc d'abord les IgM sans IgG, et ensuite les IgG apparaissent, tandis que les IgM disparaissent. Et donc, en principe, on ne devrait pas avoir les deux en même temps. Et on a d'habitude, donc, quand on a des IgM, ça signifie qu'il y a une infection récente, et quand on a des IgG, c'est qu'il y a une infection ancienne.
Voilà, c'est le cas en général pour toute infection, mais cela n'est pas systématique avec la boréliose. On s'est rendu compte que la borrelia avait de nombreuses ruses pour échapper à notre système immunitaire, et avec elle, il faut oublier tous les schémas classiques que nous avons appris en immunologie.
Et ça, malheureusement, les médecins ne le savent pas en général. Et les personnes qui ont des IgG donc, se font fréquemment dire qu'elles sont immunisées contre l'AM, qu'elles ont eu la maladie autrefois, mais qu'elles ne l'ont plus maintenant. Et donc, elles ne sont pas malades, alors même qu'elles ont parfois des symptômes importants. Et donc, ça, c'est un problème. Mais donc, revenons sur ce protocole habituel, donc sur ces tests ELISA Western Blood. Comment ça se passe?
Alors, donc, lorsque le médecin prescrit sérologie de Lyme, nous faisons en fait deux tests ELISA. Un pour détecter la présence d'anticorps IgM anti-Borrelia et un autre pour détecter la présence d'anticorps IgG anti-Borrelia. Il s'agit donc d'un test quantitatif de dépistage. La nomenclature des actes de biologie médicale précise que lorsque nous avons un test ELISA positif, IgM ou IgG, peu importe, nous avons obligation de faire un test de confirmation qui s'appelle le Western Blot ou Immunoblot.
Mais ce test ELISA, donc, qui est le premier en fait, qui doit être réalisé, il est l'objet de, quand même de nombreuses controverses.
Oui, c'est vrai. Alors en fait, il faut comprendre qu'il existe plusieurs fabricants de kits ELISA, IgM et IgG. Or, chaque fabricant fixe un seuil de positivité. Cela veut dire que lorsque nous analysons le sérum du patient, si le résultat est supérieur au seuil donné par le fabricant, le résultat est rendu positif. Et si le résultat est inférieur au seuil donné par le fabricant, le résultat est rendu négatif. Supposons que l'on prenne, par exemple, le sérum d'un patient et qu'on l'analyse une dizaine de fois par le même réactif ELISA. Nous trouverons 10 fois le même résultat. La qualité du réactif n'est donc pas mise en cause. Mais, supposons maintenant que l'on prenne plusieurs sérums de patients et que nous les analysons le même jour par plusieurs techniques différentes. Nous en avons fait personnellement l'expérience. Nous avons constaté les résultats suivants. Soit le patient est franchement positif et il sera positif avec toutes les techniques. Soit le patient est franchement négatif, il sera négatif avec toutes les techniques. Soit le patient est dans une limite et le même sérum, pourra donner un résultat négatif avec une technique et un résultat positif avec une autre technique. Donc, dans un cas, nous allons faire un test de confirmation et dans l'autre, nous ne ferons rien. Et là, nous revenons au problème de la fixation du seuil de positivité par le fabricant. Et c'est ce seuil qui fait controverse, car il n'existe pas de standardisation européenne. On peut donc dire effectivement que nous avons un vrai problème avec les techniques ELISA. Et comme l'a très bien souligné d'ailleurs le rapport du Haut Conseil de Santé Publique, il y a un important travail à faire sur ce sujet. Et aussi, comme vous le disiez dans votre introduction, les questions orales ou écrites des députés reprennent ce problème. Et enfin, il faut savoir que certaines espèces de Borrelia, je pense notamment à Borrelia miyamotoi, ne seraient pas détectées par ces techniques.
Donc, en fait, avec les ELISA, on peut aussi bien avoir des faux positifs que des faux négatifs?
Tout à fait. Alors, comme je vous l'ai dit, le test ELISA est un test quantitatif de dépistage. Tout résultat positif doit être confirmé par un Western Blot ou Immunoblot, qui est un test qualitatif. Seul un blot positif permet d'affirmer que le patient a développé des anticorps contre la Borrelia. Or, il arrive parfois que nous ayons un test de dépistage ELISA positif, avec un test de confirmation immunoblot négatif. Et on le constate d'ailleurs surtout pour les IgM. Cela est connu et s'explique par le fait qu'il existe des réactions croisées entre différents paramètres biologiques et les IgM anti-Borrelia. On parle donc de faux positifs. Et inversement, on peut avoir un test de dépistage ELISA négatif avec un blot positif. On parle alors de faux négatifs, souvent dû à un manque de sensibilité de la technique ELISA. Le faux négatif peut être gênant d'ailleurs, car en s'arrêtant la technique ELISA, le résultat négatif peut orienter le médecin sur une fausse piste. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il nous arrive parfois, soit la demande du médecin, soit la demande du patient, de faire un blot sur un ELISA négatif. Mais dans ce cas-là, ben, l'analyse est à la charge du patient quand nous ne sommes plus dans le cadre de la nomenclature des actes de biologie médicale.
Oui, effectivement, le test Western blot ou immunoblot n'est remboursé au patient que dans la mesure où l'ELISA a été positif.
Absolument.
Et dans tous les autres cas, enfin dans le cas où il est négatif, il reste à la charge du patient. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce test immunoblot ou Western blot?
Bien sûr. Donc, il s'agit d'un test de confirmation. C'est un test qualitatif, c'est-à-dire que nous allons rechercher d'éventuels anticorps développés par le patient contre des protéines spécifiques des Borrelia. Pour schématiser, les différentes protéines des Borrelia se trouvent sur une bandelette. Le sérum du patient va être mis en contact avec cette bandelette. Et s'il contient des anticorps contre une protéine spécifique de la Borrelia, ces anticorps vont se fixer sur la bandelette et provoquer une réaction colorée visible. Cette reconnaissance protéine-anticorps est schématisée par un pic. Nous allons faire en fait deux immunoblots, un pour les IgM et un pour les IgG. Alors j'insiste sur le fait que toutes les protéines testées fixées sur la bandelette sont spécifiques de la Borrelia, sauf une, qui s'appelle la P41, qui est une protéine de flagelle et que l'on peut rencontrer chez d'autres bactéries. Alors certaines protéines ont plus d'importance que d'autres. Il s'agit essentiellement des protéines OSPC, VLSE et P18. Aujourd'hui, il existe des kits d'immunoblots qui recherchent les anticorps contre les protéines des différentes espèces de Borrelia, à savoir Borrelia burgdorferi stricto sensu, mais aussi Borrelia garinii, Borrelia abzelii, Borrelia spilmanii et Borrelia bavariensis. En effet, d'ailleurs, nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, mais la principale Borrelia pathogène pour l'homme a été découverte aux États-Unis par un entomologiste nommé Burgdorfer suite à une épidémie de monoarthrite du genou dans la ville de Lyme. Ceci explique le nom de maladie de Lyme et le nom de la bactérie, Borrelia burgdorferi. Mais Borrelia burgdorferi stricto sensu est essentiellement présente aux États-Unis et peu fréquente en Europe, où on considère qu'elle représente moins de 10% des borrelioses européennes. En Europe, nous avons surtout Borrelia garinii, qui donne essentiellement des signes neurologiques, et Borrelia abzelii, qui donne essentiellement des signes cutanés ou arthralgiques. On comprend donc l'importance d'utiliser un test qui permettent de mettre en évidence les anticorps dirigés contre les protéines de ces différentes espèces.
Et comment interprète-t-on en fait le résultat d'un Western blot?
C'est loin d'être évident. Si nous avons mis en évidence les anticorps, IgM ou IgG, peu importe, contre les protéines spécifiques des Borrelia, qu'il s'agisse d'OSPC, VLSE, P18, P100, etc., nous allons rendre résultat positif en IgG, s'il s'agit des IgG, bien sûr, ou résultat positif en IgM, s'il s'agit des IgM. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, j'insiste lourdement, un blot positif ne veut pas dire que le patient a une maladie de Lyme en cours. En effet, nous recherchons des anticorps, donc une mémoire immunologique. Donc un blot positif signifie que le patient a été en contact avec une Borrelia et que le patient a développé des anticorps contre cette Borrelia. Mais nous sommes malheureusement dans la totale incapacité de dire si le patient est atteint d'une borreliose active ou non. C'est pour cette raison qu'il faut toujours interpréter les résultats en fonction de la clinique. En effet, nous pouvons avoir des patients qui ont un blot IgG et même IgM positif sans aucun signe clinique. Cela peut se rencontrer par exemple chez des forestiers ou des chasseurs qui ont été mordus de multiples reprises. On peut aussi avoir des patients avec des blots positifs et des signes cliniques évocateurs. Dans ce cas-là, il y aura corrélation entre la biologie et la clinique et donc forte suspicion de maladie de Lyme active. Et enfin, nous pouvons avoir des patients avec un blot négatif et de nombreux signes cliniques évoquant une maladie de Lyme. Cela peut se rencontrer lorsque la morsure est ancienne, car nous perdons nos anticorps au fil du temps, ou lorsque le patient a subi différents traitements qui ont entraîné une chute des anticorps, ou éventuellement lorsque la Borrelia transmise par la tique est une Borrelia pathogène non recherchée par le kit utilisé pour l'immunoblot. Ou alors, il ne s'agit pas de borreliose. On se rend compte que rien n'est évident. Et je répète que nous recherchons une mémoire et que l'on ne peut pas affirmer un diagnostic sur un résultat d'immunoblot.
Vous écoutez Médiatique. Nous parlons aujourd'hui des tests biologiques utilisés pour le diagnostic de Lyme avec le docteur Lionel Chappie, biologiste médical. Monsieur Chappie, vous avez donc décrit les deux tests ELISA et Western Blot qui tous les deux dosent des anticorps présents dans le sang du malade, anticorps produits par les lymphocytes B. Et parmi les autres cellules de l'immunité, au début de cet entretien, vous avez parlé des Natural Killers, NK57-56. Comment ces Natural Killers réagissent-ils à l'infection par la Borrelia?
Alors là, nous explorons une autre partie du système immunitaire puisqu'il s'agit des Natural Killers qui sont des lymphocytes de défense. Et en effet, plusieurs publications indiquent que des taux bas de NKCD57 sont reliés à des borrelioses chroniques. Alors, tout d'abord, les chiffres 57-56 n'ont pas de signification particulière. Ce sont simplement des numéros qui ont été donnés pour reconnaître ces différents natural killers. Alors, en général, d'ailleurs, nous avons plus de NKCD56 que de NKCD57. Et si on veut mettre en évidence une vraie baisse des NKCD57, il est préférable d'utiliser le rapport NKCD57 sur NKCD56. Et ensuite, il faut comprendre que ces natural killers ne sont pas spécifiques de la borreliose. En effet, on trouve un rapport abaissé dans d'autres pathologies, qui sont en général d'ailleurs des pathologies chroniques.
Mais cet examen est quand même très pratiqué aux États-Unis, en Allemagne. Donc quel est son intérêt, puisque vous venez de nous dire qu'en fait, il n'est pas spécifique de la borreliose chronique?
En fait, il semble présenter un intérêt thérapeutique. Nous avons constaté que les patients atteints de borreliose chronique et qui avaient en plus un rapport NK-CD57-56 bas étaient des patients qui avaient besoin d'un traitement souvent plus long que des patients qui avaient un rapport normal des NK-CD57-56. Alors, en tant que biologiste, moi, je n'ai pas à parler de traitement ni à juger tel ou tel traitement. Par contre, nous avons constaté que lorsqu'une amélioration clinique survenait après plusieurs mois de traitement, elle était en général corrélée à une augmentation du rapport des NK-57-56. Le problème, c'est que nous n'avons aucune explication physiologique à fournir. Donc, l'intérêt de cette analyse est plus thérapeutique que diagnostique.
D'accord. Et donc, il y avait un troisième groupe de cellules de l'immunité dont vous avez parlé, les lymphocytes T. Alors, ils peuvent aussi servir de support à un test de dépistage pour Lyme?
Oui, et c'est peut-être le groupe le plus intéressant. Il existe une analyse qui explore l'activité des lymphocytes T contre la Borrelia. Il s'agit de l'ELISpot Borrelia. De façon très schématique. Le principe est le suivant. Après une prise de sang, les lymphocytes du patient sont séparés et mis en contact avec des antigènes de Borrelia. Si, au moment du contact, il existe des lymphocytes du patient, lymphocytes T, bien sûr, s'il existe des lymphocytes T du patient activés contre la Borrelia, ces lymphocytes vont sécréter une substance qui s'appelle l'interféron et que l'on met en évidence sous forme d'un spot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, au moment de la prise de sang, il existe chez le patient des lymphocytes T spécifiques en train de lutter contre la Borrelia, ce qui caractérise la présence de Borrelia chez le patient et nous pouvons quasiment, affirmer qu'il s'agit d'une borreliose active. Des publications ont montré que ce test était donc positif en cas de borreliose aiguë ou chronique, qu'il devenait négatif lorsqu'un traitement efficace était mis en place et qu'il pouvait redevenir positif en cas de réapparition des signes cliniques. Alors le problème quand même de ce test, c'est sa réalisation. Il est techniquement très délicat. Il faut travailler en milieu stérile. Il est long, se déroule sur 3 jours. Il est très onéreux. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui explique probablement le fait qu'il n'y ait que très peu de laboratoires qui le pratiquent en Europe.
Juste une petite question. En fait, si les lymphocytes T activés signifient que la borreliose, du moins à presque à 100%, disons, avec une presque certitude que la borreliose est active, ça signifie qu'après une infection, les lymphocytes T ne restent pas en fait, dans l'organisme, contrairement aux anticorps qui sont sécrétés sur le long terme?
Non, en fait, après, on a des lymphocytes T mémoire. Mm-hmm. Et ces lymphocytes T mémoire sécrètent aussi de l'interféron. Mais le principe de l'ELISpot, c'est de bloquer la réaction au bout de 20 heures, de façon à ce que l'on puisse avoir que la sécrétion des lymphocytes T activée, et non pas la sécrétion des lymphocytes T mémoire.
D'accord. Donc c'est un test quand même assez pointu, on va dire. Est-ce qu'il est disponible en France? Vous avez dit qu'il y avait très peu de laboratoires qui le pratiquaient en Europe. En France, on en a?
Alors, a priori, il sera disponible en France au premier trimestre 2015. Mais aussi, il faudra s'assurer qu'il existe un contrôle de qualité interlaboratoire. Maintenant, comme dit le proverbe, il faut savoir raison garder. Car si ce test paraît vraiment très intéressant, je pense qu'il faut bien compter, mais une bonne année d'utilisation avant d'arriver à des conclusions probantes. Je veux simplement ici rappeler l'énorme différence entre ce test et l'immunoblot. Dans l'immunoblot, nous recherchons une mémoire immunologique. Nous recherchons si le patient a été en contact avec la borrelia. Dans l'ELISpot, nous mettons en évidence la lutte des lymphocytes T du patient contre la borrelia. Nous sommes dans le présent, dans l'immédiateté, et pas dans la mémoire. Ces deux tests sont donc en fait complémentaires.
Donc jusqu'à présent, on a décrit des méthodes qui sont toutes basées sur la réaction de notre propre système immunitaire à un contact avec la borrelia. Donc avec les limites que nous avons évoquées, quelles possibilités a-t-on actuellement de détecter non pas la réaction de notre corps, mais la bactérie elle-même ?
Alors il existe une possibilité. C'est une analyse qui est la recherche de borrelia par PCR pour polymérase chain reaction. Le principe est de détecter le matériel génétique de la bactérie, c'est-à-dire l'ARN 16S ou l'ADN, par un test d'amplification directement dans le milieu biologique. Alors l'avantage de cette analyse est qu'elle permet de détecter de faibles quantités de bactéries présentes dans le prélèvement. Pour interpréter la PCR à bon escient, il faut se souvenir que la borrelia a tendance à se déplacer rapidement après la morsure, plus en circulant vers des sites physiologiques comme la peau, les articulations, les méninges. La PCR est donc intéressante sur des biopsies cutanées ou autres, dans le liquide synovial aussi, et pourquoi pas dans le LCR. Par contre, pour l'instant, elle n'est pas recommandée dans le sang total, car d'une part, elle manque de sensibilité, et d'autre part, les borrelia restent très peu de temps dans le sang circulant. Mais c'est une technique qui devrait évoluer et devenir au fil du temps de plus en plus intéressante.
Alors vous avez parlé du LCR, le liquide céphalo-rachidien. On va revenir un petit peu là-dessus si vous le voulez bien, puisque souvent dans les cas de suspicion de borreliose tardive, avec des signes neurologiques, les gens se voient proposer une ponction lombaire. Alors est-ce que vous pouvez nous préciser de quel examen il s'agit ?
Ah oui, c'est un examen qui se pratique à l'hôpital en général. On fait une ponction lombaire au patient, qui reste quand même un geste invasif et non anodin, d'où l'hospitalisation. Et on va rechercher des anticorps anti-borrelia dans le LCR. LCR, c'est le liquide céphalo-rachidien qui baigne le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, etc. Puis, on fait un calcul de l'index de la synthèse intrathécale. C'est un peu compliqué. Il s'agit du rapport d'immunoglobuline anti-borrelia dans le sérum et dans le LCR, rapporté à l'index d'immunoglobuline totale ou d'albumine. Il faut simplement retenir, c'est qu'un résultat positif aide à poser le diagnostic de neuroborreliose, mais un résultat négatif ne doit pas faire exclure le diagnostic de neuroborreliose. Et en fait, pour en avoir discuté avec quelques praticiens hospitaliers, il semblerait que cet examen soit intéressant tant que nous sommes en phase secondaire ou tertiaire de la maladie, c'est-à-dire quelques mois après la morsure, mais plus on s'éloigne dans le temps de la morsure et plus cet examen est négatif, ce qui ne facilite pas le diagnostic.
Donc, jusqu'à présent, c'est pas très très encourageant quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de tests qui ont l'air d'être vraiment fiables. Alors, ça se complique encore parce qu'il y a une notion qui devient de plus en plus importante pour bien comprendre la maladie de Lyme. Le docteur Horowitz, qui est un spécialiste américain membre de l'ILADS, en parle largement dans son livre Soigner Lyme. Et dans son rapport publié au mois de décembre 2014, le Haut Conseil de Santé Publique y fait largement écho. C'est que la maladie de Lyme n'est que l'une des nombreuses infections transmises par les tiques. Et la plupart des malades sont co-infectés, c'est-à-dire qu'ils ont, en plus de la borrelia, d'autres microbes pathogènes. Et parfois même, probablement, ils n'ont pas Lyme du tout, mais ils peuvent avoir une ou plusieurs de ces autres infections à tiques. Donc, M. Chapis, ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous faites également des analyses sur ces autres infections. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr. Alors, tout d'abord, ce ne sont pas toutes les morsures de tiques qui vont entraîner une infection. On considère qu'il y a environ entre 20 et 30 % de tiques infectées, mais avec une grande disproportion selon les régions. Donc, en fait, c'est un chiffre moyen qui ne signifie pas grand-chose. La tique peut être infectée par un ou plusieurs agents pathogènes. Les plus importants sont naturellement les borrelia, mais aussi les bartonelles, les babesia, les rickettsii, les anaplasma, et dans de rares cas, on a neo-erlichia, coxiella, ou francisella. On appelle cela des co-infections. Alors, la recherche la plus intéressante de ces co-infections est peut-être celle des bartonelles par PCR. En effet, on connaît aujourd'hui deux espèces de bartonelles pathogènes pour l'homme, Bartonella encelae et Bartonella quintana. Mais, lorsqu'on effectue des sérologies sur ces deux espèces, elles sont presque toujours négatives. Or, deux études, une américaine et une française, ont montré que lorsque l'on recherchait les bartonelles par PCR, cette fois-ci, le résultat était souvent positif. Alors pourquoi ? Parce qu'en PCR, on recherche de nombreuses espèces de bartonelles, pas seulement Bartonella encelae quintana, mais des bartonelles présentes chez les rongeurs et chez les bovins que la tique peut nous transmettre par sa morsure. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas si ces bartonelles de rongeurs et de bovins sont pathogènes pour l'homme ou si elles viennent amplifier la pathogénicité des borrelia. Mais il est quand même très intéressant de les rechercher. Une autre co-infection dont on parle de plus en plus, c'est la babesia qui est un petit parasite intracellulaire transmissible par morsure de tique. Là aussi, c'est intéressant de demander une sérologie cette fois-ci, pas une PCR, car on recherche essentiellement Babesia divergens. Et la recherche, par contre, des autres co-infections dépend peut-être plus de la clinique. Vous voyez, par exemple, en cas de fièvre avec le leucopénie, il est intéressant de rechercher des anaplasmas. En cas de morsure dans le cuir chevelu, la tique n'est peut-être pas un exodès, mais un dermacentor, il est intéressant de rechercher son mode d'érythésie, etc., etc.
Oui, alors encore une fois, on ne peut que constater comme la maladie de Lyme au sens large est vraiment un sujet complexe et passionnant. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement des tests actuellement? Quelle est leur utilité et quelles sont leurs limites?
Actuellement, je pense qu'on peut dire que la biologie de la maladie de Lyme a énormément progressé ces derniers temps, même si elle est encore imparfaite. En effet, vous savez, avec un blot qui teste les principales espèces européennes, Natural Killer, qui apporte un élément thérapeutique, les LISPOT, qui met en évidence la défense du patient, et avec la recherche de co-infection, on peut penser, sans être d'un optimisme débordant, que la biologiste va aider de plus en plus le clinicien dans son diagnostic. Car le diagnostic reste avant tout clinique, et tout clinicien sait qu'il soigne d'abord un patient, pas un bilan biologique. L'important, en fait, c'est que toute cette biologie soit en accord avec le rapport du Haut Conseil de Santé Publique, qui est sorti récemment et qui, sur le volet biologique, dit, je le cite là, « Le Haut Conseil de Santé Publique recommande d'améliorer le diagnostic biologique, sérodiagnostic compris, de la boréliose, de Lyme, en étendant le spectre de la recherche vers d'autres espèces plus rares que Borrelia burgdorferis insulato, ainsi que vers des co-infections, Bartonella et Borrelia, Anaplasma et Borrelia, etc. »
Oui, donc on peut espérer, mais un dernier mot quand même, les analyses nouvelles et prometteuses dont on a parlé sont coûteuses et pour l'instant, elles restent entièrement à la charge des patients. Il va falloir que les pouvoirs publics se penchent sérieusement sur ce problème, d'autant plus que beaucoup de malades de Lyme sont dans l'incapacité de travailler, ils ont donc des moyens financiers très limités. Monsieur Chappé, en tout cas, merci pour vos explications sur les différents tests. On espère avec vous que le diagnostic biologique de Lyme et de ses co-infections va continuer à progresser pour le bénéfice de tous. Merci, au revoir.
Merci.